session va être sur l'usage de l'enregistrement internationalisé sur les données. Ça va se faire en deux parties. D'abord, je vais demander au groupe de travail de vous donner votre rapport à travers une demander à ce qu'on corresponde par téléconférence et par email. Et une fois que j'aurai fini ma présentation, Bruce Tompkin va être le modérateur et va demander aux ceux qui sont présents quelles sont leurs idées et leurs commentaires, de manière à pouvoir aller de l'avant en ce qui nous concerne. Donc, commençons. Donc, j'ai parlé de ce problème d'espace. De plus en plus, les gens qui se servent de l'Internet deviennent de plus en plus adeptes à utiliser les caractères des langues locales plutôt que le langage particulier des pages web. Par exemple, Whois est une application Internet. Par exemple, Whois doit se tourner vers son public global. Certainement, tous les gens qui se servent de Whois doivent le faire. Donc, dès le départ, je dois dire que les problèmes dont on parle aujourd'hui sont distincts des TLD IDN. Particulièrement, si on sert les données d'enregistrement, on doit les séparer des noms de domaine internationaux. Donc, les normes IDN et les grandes lignes sont connues et disséminées. Donc, Whois et les développeurs associés appliquent ces soumissions et la mise en place des noms. Derrière les noms de domaine, vous pouvez regarder à Whois. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut obtenir. Par exemple, le sponsoring du registraire, le contact pour l'administration ou l'aspect technique d'une organisation qui a enregistré le nom de domaine. Les utilisateurs et leur expérience sur le terrain a changé. Il y a 15 ans, l'accès moyen à Whois se serait servi, par exemple, de système ASCII 7. Aujourd'hui, les gens se servent de plus en plus de la langue locale. Dans le contexte des noms de domaine, vous verrez qu'il y a une évolution. Les gens soumettent des étiquettes ASCII, mais également des étiquettes non codées. Et ils font ça, par exemple, en port 43, qui est le port pour les applications. Vous avez vu également qu'il y a des applications où les gens se servent de noms de domaine qui sont utilisés par le registraire local. Vous avez devant vous un exemple de PORT 43. Vous avez un exemple de JPRS. Et en manipulant le drapeau avec le client Whois, vous pouvez voir que l'étiquette U encodée du nom de domaine ainsi que l'encodage IDN du nom de domaine. Voici un autre exemple. On a couvert, en général, l'information qui a à voir avec le nom de domaine. Pensons maintenant aux informations de contact ou le sponsor du registraire ou le nom de domaine dont le serveur se sert. Ce genre d'informations, on dit en général données d'enregistrement. comme quand on accède à une page de web, on peut voir qu'il y a une image qui est affectée par un certain nombre de caractères et qui sont disponibles pour les clients Whois. Par exemple, si vous utilisez un laptop ou un desktop, vous avez des applications Whois. En plus, la fonction peut être influencée par les registraires ou des parties tierces, Whois, qui choisiront entre l'encodage qui le représente les mieux pour l'usage des locaux des utilisateurs. Par exemple, en Corée, vous avez des sites web très populaires avec le langage coréen. Aux États-Unis, on se sert de ASC7. Donc, en fait, les registraires peuvent avoir plus d'une manière de disséminer l'information. Un exemple, par exemple, d'un registre qui nous donne un service Whois et se sert d'un set de caractères différent de ASCII7, c'est le caractère DENIC, dont on se sert avec les caractères en latin. Et ceux qui ne peuvent pas lire ces caractères microscopiques, on peut se servir d'autres caractères au-delà du ASCII7. Donc, cette information met en place la manière dont on doit comprendre le genre de questions à considérer quand on approche les problèmes de données d'enregistrement Whois. Il y a sept de données. On veut accommoder les usagers. Si vous voulez accommoder les usagers, il faut arrêter de penser pour un moment quel type bénéficient les utilisateurs de l'Internet. Il faut également considérer ce qu'on appelle l'effet de Babel. L'effet de Babel nous vient de la Bible des catholiques. Chacun voulait construire une tour pour atteindre Dieu, mais Dieu n'était pas content. Et dans ce cas-là, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a créé des langages différents de manière à ce que les gens ne se comprennent pas ensemble. Donc, chez nous, à Whois, on veut que les gens puissent se servir des données Whois, quelle que soit leur base. Et cela nous amène vers le second point, c'est-à-dire la reliabilité et l'exactitude des données sur les issues opérationnelles. Beaucoup de gens aujourd'hui qui ont accès à l'information Whois se servent d'applications ou d'automation ou essayent de prendre les données Whois et s'en servent pour faire du suivi, des analyses, pour identifier des registres ou des domaines qui, par exemple, sont usés de manière frauduleuse ou alors essayer de se servir dans le monde des affaires pour savoir qui sont les propriétaires ou faire des analyses au sein des données Whois. Et je parle évidemment des GTLD Whois et qui sont pas sur le moment avec les grandes lignes RAA. Une des choses où il faut que nous soyons prudents, et ça devient de plus en plus un problème, c'est que si nous créons l'effet Babel sur les données, on va empêcher les agences de police de refaire leur travail, notamment dans la protection de la propriété intellectuelle. Il y a aussi des problèmes qui ont à voir avec la standardisation de la sécurité qui sont concomitantes avec les problèmes dont j'ai déjà parlé. Où nous en sommes-nous maintenant? Nous en sommes à un point où SSAC a produit un document qui s'appelle SAC 037. Et l'une des recommandations que SAC a données a été faite au directoire. Et on a demandé à ce que le GNSO, ALAC, les CNSO, le GAC et SSAC forment un groupe de travail pour discuter les problèmes qu'on a passés en revue. Le personnel de ICANN s'est penché sur le problème et a essayé de mettre en place une charte de mise en place qui est un plan qui doit être publié et qui peuvent être mis sur l'Internet. Je n'ai pas le URL, mais je peux vous le procurer. Le personnel a travaillé également avec les membres de SSAC pour examiner les pratiques courantes sur les registres CCTLD. Donc, il est important pour nous de trouver une solution qui serait appropriée pour l'adoption des meilleures pratiques de manière globale. Nous voulons trouver si on peut avoir des exigences de normes de fonctionnement qui existent aujourd'hui ou alors si vous avez besoin que ces normes soient considérées. Nous devons également considérer s'il y a des conventions et des normes pour, par exemple, le service postal. Vous avez un service qui a déjà dû faire face avec des communications multilinguistiques. Par exemple, les lettres vont de chaque pays, de pays étranger et pays étranger. Il y a des conventions dont on peut se servir et dont on peut se servir en tant que paradigme pour ce qu'on veut accomplir au sein de WHOIS. Je vais parler maintenant du travail que le personnel de SSAC a fait déjà. Et je commenterai par articuler les questions qu'on a considérées, essayer d'avoir un peu de lumière sur les analyses initiales qu'on a mises en place. Ce ne sont pas des recommandations. Ce sont juste des hommes de paille qui ont été mis en avant pour considération par vous, les groupes de travail et les participants. Et certainement, ce n'est pas en béton armé. Il est certain que les recommandations ne sont pas encore arrêtées de manière complète. Donc, il est certain qu'il faut considérer l'enregistrement des données qui soient considérées en USASCII. Pour considérer cette question, le personnel a demandé qu'est-ce que les pratiques courantes nous disent. Pour répondre à cette question, nous avons accédé les CCTLD et les membres du CCNSO qui veulent nous donner des réponses anecdotiques sur ces quatre questions. Les quatre questions sont les suivantes. Est-ce que vos registres vous permettent d'enregistrer les domaines avec les caractères locaux? Est-ce que votre registre collecte les enregistrements dans l'USASCI 7 en plus des caractères du langage local? Quelle langue est-ce que votre web puisse vous offrir?
De 16 CCTLD qui nous ont fourni avec les informations anecdotiques pour commencer, 14 permettent les utilisateurs d'utiliser des autres scripts. Alors, 14 ont supporté la ASCII 7 et la langue locale ont inclus l'arabe, le chinois, l'allemand, l'iranien, portugais, espagnol et suédois. Tous les CCTLD supportaient le 43 et tout disent que ça affectait le client, la dépendance des clients. Alors, dans certaines circonstances, l'application des clients devrait pouvoir supporter le UTF-8 ou UTF-16 ou UIF-59, alors pour l'utilisateur de pouvoir montrer ces informations. dans une réponse Whois. La seconde question que le personnel a pu, c'est est-ce qu'il y a d'autres principes généraux que les registrants peuvent adopter pour minimiser l'effet de Babel et assurer d'informations unifiées, d'uniformité de l'information qui est montrée? Une des conventions que nous avons inspectionnées, c'était la convention établie par l'Union universelle postale pour le formatant. Ce sont des quotes de PI1F. L'adresse internationale devait être écrite dans les lettres romaines et des chiffres arabes. Toutes autres langues et chiffres sont utilisés dans le pays de destination. Il sera reconnu que cette adresse aurait été acceptée dans des autres lettres et numéros. Ça établit la conception que l'adresse du récipient du destinataire peut être dans l'autre langue. Ce que ça implique, que ce qui supporte, qui ne supporte pas la SCI-7, et tout le monde aussi supporte une langue locale. Et le personnel a demandé est-ce que ça serait approprié pour la date de registration, pour la donnée de registration. Il y a des autres conventions et normes qui sont utilisées et qui décrivent exactement comment on utilise les lettres et comment les marques. Moi, j'ai 57 années et c'est beaucoup tout petit pour moi. Mais si on regarde en haut de cette reproduction, vous voyez l'adresse de récipient. À gauche, vous verrez ce que cette lettre est lettre romaine et chiffre arabe. Mais à la droite, vous verrez qu'il y a une écriture en arabe pour assister le bureau postal dans le pays de destinataire pour pouvoir délivrer ce paquet au récepteur. Et en dessous, ça vous dit quelles sont les recommandations. Une autre question que le personnel a demandé, c'est dans quel site, dans quelle information et dans quelle langue est-ce qu'on devrait mettre les données pour les noms de domaine, pour une gamme de noms de domaine. On arrive à un point ici où une des considérations de ESSEC voudrait donner à ICANN pour se concentrer dessus, c'est peut-être c'est l'heure de ne plus penser seulement en termes qui a des données de registration en ASCII, US, dans un texte sans format, qui n'est pas formaté, qui n'est pas instruit, et peut-être de développer une gamme de données qui est plus stricte, qui nous permettrait de peut-être améliorer la spécificité et la précision des données dans la registration de domaine. Alors, dans le service de directoire pour l'Internet, il y a des normes qui sont recommandées que le personnel et la communauté pourraient considérer comme le successeur sur l'environnement Whois du moment. Alors, ce que le personnel a pris en considération, que c'est une partie d'une question d'étude que le GNSO a donnée au personnel pour poursuivre, c'est d'énumérer les demandes des Whois services et la partie des déclarations que nous ramassons de ce jour pour pouvoir comprendre quelle information additionnelle sera nécessaire pour le service en futur. Il est clair que le possible service, c'est la possibilité d'enregistrer pas seulement dans une langue et dans une gamme de caractères, mais dans plus qu'une. ce que je indique ici, que le ASAC, que le ASAC 7, c'est un usage qui, de registration internationalisée et qui pourrait alors donner essentiellement le même contexte que nous avons aujourd'hui. Dans ce point, à ce point-là, je donne le mot à Bruce et il peut vous répondre aux questions que vous pourriez lui mettre sur la présentation ou bien sur le rapport. Et maintenant, c'est à vous. Je vous remercie. Bon, est-ce qu'il y a des questions pour la présentation de Dave, des questions de clarification? Il y a quelques questions d'un terme, d'un questionnaire que vous pourriez plus élargir. Vous n'avez pas couvert les registraires de GTLD ou bien de GTLD qui ont une quantité significative de données en termes de nom de domaine parce que le .com pour exemple, supporte aussi le second niveau. Et aussi pour montrer un nombre de registrants qui ont utilisé les autres caractères. Nous n'avons pas encore fait ceci. Une partie de ceci, c'est pour explorer cette question. C'est pour promouvoir le contact avec la communauté et le GTAD était dans mon étude anecdotique le participant qui était dans ce GTED parce qu'il voulait encourager la participation. Mon point de vue personnel, que c'est qu'on aurait un avantage de faire quelque chose de plus formel pour la collection. Pas seulement de quelques peu que moi j'ai pu contacter, de CCTLD, DTDLD, mais aussi de beaucoup de JTDOD et de registraires. Il y a aussi des revendeurs et il y a beaucoup de gens dans le G-Space et vous le trouverez dans l'Amérique du Nord et certainement un grand nombre d'eux sont aussi dans le pays en développement. Alors, il y a revendeurs dans divers pays et qui pourraient vous donner d'informations sur le disponibilité de sites web. Et on pourrait voir comment le gens local donnent des données aux registraires. Peut-être c'est une solution intérim pour court terme, mais pour la Russie, nous avons décidé qu'on commencerait avec la date de qui serait montré dans la réécriture romaine. Allons commencer avec l'IDM qui sera un Unicode. Le domaine sera dans le standard, dans le normatif. Et puis, on a décidé d'attendre avec l'adaptation de Whois données qui sera acceptée par la plus grande part de joueurs. Alors, c'est seulement une note ce qui pourrait vous aider. Pour dire que la registration est toujours en lettres latines, le IDN complet étant le U de domaine sera représenté, le A también aussi. Un nombre de registrants font ceci, de registres font ceci, et je pense que c'est utile. Une application intéressante de ce qui résulte de cette gamme de données, c'est qu'il y a le dash dash, le A label, accepté de ce jour, regarde et cherche le label domaine et peut toujours accepter un ASCII parce que c'est un label. Et puis, on n'est pas en train d'interrompre d'application où le nom de domaine est toujours un ASCII. Alors, la manière dont vous le faites, c'est que vous avez toujours le ASCII, mais on additionne le russe. Alors, vous pensez que ce serait approprié dans le futur pour vous de devoir avoir des ASCII pour votre registration, de permettre aussi d'un registrant russe de soumettre leurs données dans des caractères cyrilliques. Oui, ça, c'est le futur. C'est une extension du champ de données de base. Nous avons un autre problème, peut-être que je voudrais vous indiquer. Il y aura en janvier une nouveau protection de données privées dans la loi. Alors, on verra qui le numéro de contact, le nom de la personne ne sera plus là. Alors, je ne sais pas ce qui se produira. Nous voulons séparer la question de la loi sur la privé et sur la provision d'informations. Est-ce que l'information serait toujours là pour utilisation de la police ou des autres groupes qui ont une nation souveraine pouvoir avoir accès à ces données? C'est quelque chose de très important qui doit se... une ligne de base. C'est un autre sujet, oui. Est-ce qu'il y a des autres questions? Seulement une observation. J'ai noté que vous avez utilisé l'information postale qui sont essentiellement des données de routing. Et si vous pouvez l'envoyer au pays correct et puis dans la région correcte, vous puis faites l'assumption que les gens dans cette région peuvent lire l'adresse. Peut-être autre chose que vous pourriez regarder, c'est de trouver le directoire téléphonique. Là, il y a une situation analogue parce que le numéro de téléphone sont associés avec un utilisateur, une adresse spécifique et dans des nations diverses, on peut regarder le numéro de téléphone basé sur le nom et de temps en temps basé sur leur adresse. Et je suppose aussi sur les applications en ligne. Alors, vous pourriez regarder comment les différents pays collectent leurs informations pour le numéro de téléphone et aussi comment ils montrent l'information pour les services qui regardent le numéro de téléphone. La petite expérience que j'ai eue avec les services de page blanche, ils sont très spécifiques pour les pays. Alors, il y a des pays qui construisent leur page blanche seulement dans la gamme de caractères nationaux, de la langue nationale. Et puis, je pense qu'une des questions intéressantes serait, est-ce qu'un service directoire en page blanche serait pour l'Union européenne? Un directoire en page blanche pour des membres dans l'Europe, comment est-ce que ça apparaîtrait en principe quand c'est préparé et publié par l'Union européenne? Il doit être publié dans chaque langue qui est représentée dans l'Union. Alors là, ce serait une question intéressante pour investiguer.
Quels sont vos plans par rapport aux choses à mettre en place bientôt? Par exemple, l'approche IETF et les formats de données. Par exemple, j'ai vu qu'il y a des formats de données qui sont séparés avec du protocole. Ça pourrait, par exemple, marcher avec port 43 ou WIS. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de prendre CRISP en tant que protocole. Oui, vous avez raison. Donc, on peut, par exemple, se servir de formats déjà existants de type port 43. C'est important pour nous de séparer les schémas de data, de données, du protocole. Une des choses, par exemple, qu'on a considérées et dont on a parlé auparavant dans le conseil GNSO, était le besoin d'avoir des schémas de données qui soient extensibles et qui soient de protocoles agnostiques et qui nous permettent d'accommoder non seulement un, mais des multiples langues. Donc, si vous voulez faire un plan très rapide. Je pourrais, par exemple, initier un schéma de données XML qui accommoderait un dossier d'enregistrement USASCII 7 et un drapeau et une autre langue qui serait une indication que l'autre langue est son code. Ensuite, on pourrait avoir un set complémentaire. La value d'avoir les deux, par exemple, si une est utilisée de manière automatique, vous pourrez enlever les données OIS et cela serait très utile. Et à mon avis, c'est la bonne manière à adopter. Donc, je viendrai par exemple un technicien et ça serait certainement une chose à considérer. Donc, Bruce Tonkin demande, c'est intéressant de reconnaître qu'en voyant M. Koster, on essaye à la compagnie RIR, mais il faut voir les conséquences avec les GTLD. Donc, je m'appelle Mark Koster, je suis le PDG de ARIN et j'ai travaillé sur le protocole irlandais pendant des années et c'est très flexible mais très lourd. Une des choses qu'on a appris, c'est qu'il y a beaucoup d'informations à digérer et à ARIN, on a mis l'information WHOIS dans la base des données. Chacun a un client, chacun a un browser de web et chacun peut comprendre ce que c'est. Il y a tout un tas d'extensions, d'internationalisation et bien sûr, dans votre browser et dans vos serveurs, si vous pouvez supporter UTF-8, dans ce cas-là, vous pouvez construire là-dessus. Vous pouvez créer un protocole pour pratiquement tout. On a essayé avec Iris et parfois c'est trop dur et il faut créer quelque chose de plus simple. Par exemple, si vous utilisez une interface reposée, par exemple, je me sers de XML plutôt que de HTTP pour former un modèle dont le résultat est XML. Et vous et moi sommes en accord et on pense qu'il y a des bénéfices multiples. Si les gens ne sont pas sûrs, ou ont peur de prendre leur protocole Iris ou CRISP en tant que paradigme architectural, en ayant un set de données avec lequel on peut expérimenter et établir au-dessus de HTTP, cela va migrer vers Iris et CRISP. Et dans ce cas-là, on divise le problème en deux. Et je pense personnellement que si vous avez les données bonne d'abord et vous mettez un protocole agnostique, vous avez une migration plus propre qui nous permet de séparer les données et le protocole. Merci pour votre avis, Marc. Il est certain que, par exemple, Iris et d'autres programmes peuvent nous donner une meilleure interaction d'ordinateur à ordinateur. Marc, j'ai une question pour vous. Je ne vous demande pas que vous sentiez obligé de répondre au nom de tous les RI, mais je veux considérer quelque chose qui est relativement similaire à ce que nous faisons, c'est-à-dire d'avoir le bénéfice d'une participation des FRAGs et des RIR. Certainement vrai. Je fais partie de SSAC, donc c'est quelque chose qui est très neuf. On l'a juste annoncé la semaine dernière. Il y a beaucoup de travail de standardisation qui doit être fait. Et si cela a du succès, dans ce cas-là, on pourra le mettre en place. J'ai ce protocole Iris. J'ai besoin d'un client spécifique qui comprenne Iris pour que ça marche. Et ça a été déployé tout autour du monde. Oui, si c'est un genre de commentaire et si le commentaire que je faisais était concentré sur les formats de données, dans ce cas-là, si vous avez un format de données proposé ou un schéma Et vous pouvez le partager avec la communauté RIR, les GNSO, registraires et autres registres. Dans ce cas-là, on peut penser que la question du statut nous dira quel genre de format on va avoir et quel genre de standardisation on va avoir. Moi, je n'ai pas été aussi loin que vous, mais c'est une bonne chance de voir si on peut avoir un genre de vote des gens qui sont des registres et qui ne sont pas des registres GTLD. Vous savez, les gens ici sont intéressés à aller vers les normes IETF. Ou est-ce que vous préférez que ICANN publie comme meilleure pratique? Ou vous voulez voir, par exemple, que les RAA aient une obligation pour les registrer? Et ensuite, on peut avoir une adoption par les CCTLD. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient des réponses là-dessus. En fait, c'est bénéfique dans le monde G des normes de voir les choses qu'on puisse adopter ou pas. Et il est possible qu'une partie de la communauté doive avoir à l'utiliser. Donc, il est certain que les formats de données sont déjà bien mis en place. Et s'il y a une standardisation, je voudrais qu'on n'introduise pas les mêmes problèmes qui ont eu lieu avec les EPP, où on a un set de données qui est différent suivant les gens auxquels on s'adresse. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait trop de changements dans ce domaine. S'il y a un élément de standardisation chez WHOIS, dont on est déjà au courant à partir des IRL, et ce système s'appelle RPSL. Donc, pouvons-nous démarrer là-dessus? Je m'appelle Ray Plazac. Je suis du directoire de ICANN. En ce qui concerne quelqu'un qui fait ce genre de travail, j'ai un bon exemple qui doit être développé, par exemple, et dont on doit se rappeler au RFC, partant avec la manière dont on a fait un genre de RFC informel. Je me sentirais plus conforté si on peut trouver un groupe de travail qui pourrait adopter ce sujet et faire des publications adaptées. En tant que RFC, cela a plus de poids. Et à mon avis, on peut même en référer au RFC. Donc, vous recommandez en fait que vous voulez avoir une norme à RFC. Les informations informelles à RFC peuvent prendre beaucoup de temps. Mais c'est un moyen sûr de le faire. Si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir à faire des certifications ou des crédits. Il faut avoir donc une certaine discipline à l'intérieur de la manière dont on va faire un RFC. Oui, je suis sûr qu'il y a un genre de degré de contrôle de qualité. Je me réfère à une chose qu'on a fait il y a 15 ans qui concerne un protocole qui s'appelait AIR-WHOIS. ARIN est une des organisations qui a dit « Attention, vous pouvez distribuer votre donnée ou alors avoir un serveur AIR-WHOIS. » AIR-WHOIS est une forme de distribution de WHOIS. Et ça permet aux ISP de maintenir leurs propres données. C'est très populaire dans la région ARIN. Et ils ont la chance de le faire de cette manière et trouvent que c'est beaucoup plus facile de données ARIN dans cette base de données des clients. Donc on a un genre de carotte et bâton et qui permet de dire, bon, d'accord, vous avez des whois très sophistiqués qui ne marchent pas avec l'internationalisation ou aucune sorte d'accès de contrôle et il faut le remplacer. Donc on a des protocoles variés auxquels on a déjà mis dans le système et qui sont bien plus supérieurs à OWIS. Mais il doit donc avoir un genre de carotte et bâton de manière à encourager les gens à adopter les meilleures méthodes. Également, on parle de contrôle d'accès et de protocoles différents. Et on essaye d'avoir une certaine normalité sur les formes de données. Donc je suis d'accord. Par exemple, porte 43 ne peut pas prendre en charge tous les types de contrôle d'accès. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, il ne faut pas faire l'accès à la même période. Une des choses qui est utilisée par beaucoup de CCTLD sont les paramètres qui sont passés à OWIS. Il y a par exemple un mécanisme pour le faire. Et les gens s'en servent bien et ils sont contents. Mais malheureusement, on n'est pas réussi à standardiser la manière dont OWIS essaye d'achever ce qu'on veut avoir de THS. Je reconnais personnellement que CRISP ou ARIS, initialement, parce que personne ne les utilise. Je voudrais que vous considériez quelque chose de beaucoup plus simple, comme des paramètres sur OWIS, qui a une chance d'avoir du succès. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je vais maintenant essayer d'arrêter notre réunion, à moins que Dave ait autre chose à ajouter. Combien y a-t-il de gens qui pourraient participer au groupe de travail, car on a beaucoup de volontaires? Plus on a de personnel qui s'occupe de ce problème et plus on collecte des éléments de valeur et des données de valeur. Je vois qu'il y a CJ. Oui, levez la main. Oui. Il y a Edmund, Kim, Mark Costas, Edmund Chang. Oui, oui, c'est bien. Je vous remercie. Je veux certainement des gens qui ne se concentrent pas sur les scripts du latin. Ouais, je suis très content. On va en discuter. Merci. Et rendez-vous à la prochaine réunion. Merci.